Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, et la question du jour, c'est: quel est le secret de la longévité de Batman? Pourquoi le festival d'Angoulême fête-t-il dans le faste et dans un grand espace les 80 ans de ce super-héros né chez DC Comics et créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger? Batman, le justicier tourmenté, mi-homme, mi-chauve-souris, cet ange noir qui veille sur l'humanité, a beaucoup évolué au fur et à mesure qu'il changeait de support, de la BD au cinéma, à la télé, aux jeux vidéo, mais aussi évolué en changeant d'auteur de main. Alors, à l'occasion de l'exposition Batman 80 ans, un genre américain démasqué, qu'on peut voir ce week-end à l'Alpha Médiathèque du Grand Angoulême, une rencontre exceptionnelle ce matin avec le scénariste et dessinateur Frank Miller, par ailleurs réalisateur Frank Miller, qui a repris avec succès Batman dans une version plus sombre, et l'invité prestigieux du festival est également présent dans ce réveil culturel, Xavier Fournier, journaliste et spécialiste des super-héros, et notre nouveau partenaire chroniqueur Olivier Delcroix du Figaroscope, sans oublier Xavier Combe qui va traduire Frank Miller.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Frank Miller.
Oh mon Dieu.
On va commencer peut-être par le début. Comment votre vie a rencontré celle de Batman?
I was 5 years old.
Tout commence quand j'avais 5 ans.
My father was a traveling salesman.
Mon père était commercial. Il voyageait.
A comic book.
Et un jour,
from New York City.
Il a rapporté de New York un
up to our home.
Donc il a rapporté ça à la maison.
In the state of Vermont.
Et nous vivions à l'époque dans le Vermont.
And it was a Batman comic.
Donc c'était un comics de Batman
newspaper strips,
et qui était donc une collection de strips des années 40.
And I opened up the comic book.
J'ouvre le comics.
And I fell in.
Et je me suis fait engloutir.
Spooky.
C'était fantomatique. C'était une histoire donc constituée de strips. Et il s'agissait de l'histoire d'un homme qui était face à l'exécution. Donc il devait être sur la chaise électrique. Il n'arrêtait pas de dire « Il faut que je voie Batman ». Et Batman, évidemment, est venu le voir. Et cet homme a dit à Batman « Je suis innocent. Ils vont m'exécuter, pourtant je suis innocent ». Batman a décidé de mener l'enquête. Cette enquête a duré assez longtemps. C'était une aventure assez palpitante et il semblait s'avérer que l'homme était bel et bien innocent. Alors que Batman, au bout du compte, a découvert qu'il était coupable. À la fin de l'histoire, Batman a simplement assisté à l'exécution de cet homme.
Non. I have to say, that's how I remember it.
Voilà mon premier souvenir de Batman.
I've been looking for this story again ever since, and I've never.
Depuis,
I've never
je cherche partout cette histoire et je ne l'ai jamais retrouvée.
Est-ce que vous pensez, Frank Miller, que votre vocation de dessinateur est née à ce moment-là ou c'est venu des années plus tard?
Oh no, before.
Ah non, ma vocation elle date d'avant.
I grew up. Watching Superman cartoons.
Quand j'étais gamin, je regardais des dessins animés de Superman.
And declared to my mother,
et j'ai
very,
dit
very young age,
très très tôt à ma mère,
before I ever went to school
avant même
anything,
d'aller à l'école,
that I was going to spend the rest of my
que
life
j'allais
making comics.
Consacrer le reste de ma vie aux comics, aux dessins, à cet
and
art.
She, and I'll never forget what she said.
Et ma mère m'a répondu, je m'en souviendrai toujours,
she said you can
elle m'a
do
dit,
anything you want to,
fais
Frank,
ce que tu veux, Frank, mais il faut vraiment que tu t'engages là-dedans.
Et vous êtes engagé dans le dessin, Frank Miller, quand Batman est revenu dans votre vie, et cette fois-ci, quand on vous a proposé de reprendre ce personnage, comment vous avez réagi? D'ailleurs, est-ce que c'est vous qui avez tout fait pour reprendre Batman, ou c'est une proposition qu'on vous a faite?
I was approached by Dick Giordano.
C'est Dick Giordano qui m'a contacté.
DC Comics.
DC Comics. Il m'a expliqué.
He said to me,
il m'a dit,
he said, whenever I go to the comic book shows,
quand je vais Quand je vais voir des festivals, des choses comme ça, où il y a des super-héros, on me dit toujours que le super-héros préféré de tout le monde, c'est Batman. Mais pourtant, personne n'achète les comics de Batman.
Do you have any ideas?
Et il me dit, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu as des idées, quelque chose à proposer? Autrement dit, on me montrait les clés du royaume magique, on me proposait de me les donner.
At the same time, I was 29.
En parallèle.
And just about to turn 30 years.
J'avais 29 ans et c'était quasiment la veille de mes 30 ans.
Which would have made me older than Batman.
Autrement dit, j'aurais été plus vieux que Batman.
I didn't want to be older than Batman.
Et je me refusais d'être plus âgé que Batman.
So I made him a lot older than me.
Quand j'ai vieilli Batman pour qu'il soit plus vieux que moi.
But mostly I wanted to I once I got the idea of making Batman
Mais
older.
Une fois que j'ai eu cette idée,
it all started making sense.
Toute la logique s'est déployée.
I was able to put him in a world.
En effet,
that
j'ai pu
like
l'intégrer dans un univers qui ressemblait peu ou prou à la fin des années 80.
When New York was falling apart.
Lorsque New York était en pleine déliquescence.
And to give him a reason to be so scary.
Et il fallait qu'il fasse peur, il fallait qu'on sache pourquoi.
And then it just became
Puis,
fun.
À partir de là, c'était le pied, quoi. J'ai pris mon pied.
Donc c'est un univers plus sombre, en rapport effectivement avec le New York des années 80, vous venez de le dire Frank Miller, mais graphiquement, il y avait d'autres influences. Aujourd'hui, on dit que vous êtes l'auteur américain qui a été le plus influencé par les mangas. Mais est-ce que vous les lisiez, les mangas? Parce qu'effectivement, quand on voit comment vous traitez vos histoires, c'est la référence qui revient.
The manga was primarily came from Kozuri Okami, Lone Wolf and Cub.
Donc Lone Wolf and Cub, Kozuri Okami, c'est surtout ça qui m'a amené au manga.
By Koiki and Kojima.
Koshima, donc.
Mm-hmm. Because they're very cinematic.
Donc,
cette
espèce de façon de raconter les histoires de façon cinématographique avec des dessins rapides, beaucoup de mouvements.
And Klaus Janson and I have a lot of that energy.
On a pu saisir pas mal de cette énergie, je crois.
Pour vous, Frank Miller, qui est Batman? Qu'est-ce qui représente Batman? Ici en France, Jean-Pierre Dionnet, qui est le cofondateur mythique de Metal Hurlant, a dit que pour lui, Batman, c'est une sorte de milliardaire qui veut la justice. C'est Bill Gates transformé en super-héros. Olivier Delcroix, lui, a rencontré Enrico Marini, qui a repris lui aussi Batman. Et pour cet auteur italien, Batman, c'est le Clint Eastwood des comics. Et pour vous, Frank Miller, s'il fallait définir Batman.
Well, the Clint Eastwood reference is much more accurate than the Bill Gates.
La référence à Clint Eastwood me sied mieux que celle à Bill Gates, à vrai dire.
The Batman's money is just
l'argent de Batman.
Just gives him great toys.
Lui donne en fait
great weapons
accès à des
that.
Jouets formidables, des armes extraordinaires, c'est
but
tout.
The Clint Eastwood
Cela dit,
thing is closer to his, to
je
his,
pense que Clint Eastwood se rapproche davantage de sa personnalité et de sa motivation.
Batman, is very angry.
Batman est en colère.
And no one ever got across anger better
et
than Clint Eastwood playing Dirty Harry.
Personne ne représente mieux la colère que Clint Eastwood dans Dirty Harry.
Est-ce que Batman a des idées politiques ou est-ce que, pour être précis, Frank Miller, est-ce que vos idées politiques, vous avez réussi à les fourguer à Batman ou vous avez été plutôt bien cadré par les éditeurs et que vous êtes dit, je m'adresse à un public large, je laisse de côté mes idées politiques?
Batman is not political.
Non, Batman n'est pas un personnage politique.
He's a mythic
Batman,
hero.
C'est un héros mythique.
But in the course of introducing a mythic character,
le fait de présenter un personnage
to a recognizable world
dans un monde, dans un univers que l'on reconnaît,
I couldn't resist
fait que
including
je n'ai pas pu
political parody
résister à cette envie de parodie politique
with the little TV screens,
avec les petits écrans de télé
of everybody chattering
avec les gens qui bavardent
about this,
ne cessent
either God or
de
demon,
parler de ce personnage, mi-dieu, mi-démon, que sais-je encore.
Idea was that the chatterers.
L'idée, c'est que les observateurs, les commentateurs,
the talking heads on television,
les
couldn't understand
gens que l'on voit à la télévision,
what, you know, this man was.
Étaient incapables de comprendre qui était Batman.
Est-ce que Donald Trump, pour vous, pourrait être un super-héros de la bande dessinée? Et si oui, il serait plutôt un personnage positif ou négatif? Un gentil ou un méchant?
Well, he looks so much like the Joker.
Ah, c'est vrai qu'il ressemble pas mal au Joker.
Silly question.
Ah, c'est une question
I cannot imagine a world in which Donald Trump would be a good guy.
On peut pas imaginer un monde où Donald Trump serait un gentil.
Frank Miller, pour terminer, une dernière question. Entre dessiner des personnages qui ont existé avant vous, que ce soit Batman ou Daredevil, et dessiner plutôt un univers que vous avez vous-même imaginé, comme Sin City, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est plutôt la discipline d'un personnage qui existe déjà, qui est déjà un mythe, ou un univers que vous créez de toutes pièces?
It takes much more discipline.
Il faut en fait beaucoup plus de discipline
to make up something new.
Pour créer quelque chose à partir
Because
de rien.
Then I have to make all the rules myself,
parce que les règles, c'est moi qui dois les établir et c'est moi qui dois les suivre.
But in terms of pleasure,
mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce que je préfère?
I love it all. I absolutely love it all.
Eh bien, je dirais les deux, mon commandant. J'aime les deux.
When I do Superman,
quand je travaille sur Superman,
it's the best time I ever had
eh bien,
life.
Je m'éclate. Je ne peux pas imaginer mieux. Puis je passe à Xerxes, bah là je m'éclate aussi, je ne peux pas imaginer mieux.
Merci beaucoup d'être passé, Frank Miller.
Merci.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour Xavier Fournier.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialiste des super-héros. Dites-nous pourquoi on continue encore à parler de Batman aujourd'hui?
Parce que le filon est inépuisable et c'est un personnage qui est multifacette. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un ressort qui est qu'on peut admirer Batman sans vouloir être son voisin. On ne voudrait pas habiter à Gotham. Donc il y a une sorte de fascination un petit peu horrible. Qui est de dire on admire ce gars-là, mais on ne voudrait pas faire partie de son monde.
Oui, mais quand on dit ça, est-ce que ça s'adresse plutôt aux amateurs de bande dessinée ou ça reste vraiment un des super-héros les plus populaires aujourd'hui?
Il fait partie, avec Superman et quelques autres personnages, de ce qu'on appelle l'Americana. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est sorti de la bulle BD et qui est une icône. C'est pas un hasard s'il y a plein de gens qui portent des t-shirts Batman aujourd'hui, sans être forcément des grands amateurs de la bande dessinée. C'est un archétype. Et même sans être un grand pratiquant de la bande dessinée, sans être un lecteur courant, il y a des gens qui se reconnaissent dans certaines valeurs de Batman, bien sûr.
Alors, quelles sont les valeurs de Batman? Justement.
C'est une recherche de justice avec en même temps un questionnement sur la vengeance et à quel endroit on met le curseur, en particulier si on regarde ses origines. C'est quelque chose sur lequel j'avais pas mal fait de recherches au moment de mes propres enquêtes sur les super-héros français. On peut remonter, c'est Umberto Eco qui avait le premier à remonter là-dessus, on peut remonter dans les origines de Batman jusqu'au Comte de Monte Cristo. Et à partir de ce moment-là, naît un personnage de vengeur masqué qui se pose lui-même des questions de jusqu'où il peut aller dans sa vengeance et dans sa soif de justice. Et ça, c'est quelque chose qui remonte déjà au 19e siècle. Donc l'envergure de Batman, elle date même déjà presque d'un siècle avant Batman. Et c'est pour ça qu'il peut pas s'épuiser aussi facilement que ça. C'est pas un personnage avec une petite dimension, une petite surface dont on a vite fait le tour.
Alors vous allez, je suppose, voir l'exposition Batman 80 ans, un genre américain démasqué. Qu'est-ce que vous attendez de cette de cette exposition, de revoir les premiers dessins de Batman, c'est-à-dire la patte de Bob Kane, de voir comment ça a évolué au fur et à mesure qu'il changeait de main.
J'espère que c'est une exposition qui donne différents reflets de Batman, parce que on le voit bien d'ailleurs quand on parle avec Frank Miller, et puis quand on parle d'autres Batman. Il y a des gens pour qui Batman, c'est le personnage un peu rondouillard, marrant, rigolo de la série télé des années 60. Il y a des gens pour qui c'est tel auteur, telle version de la bande dessinée des années 70, qui est déjà un peu plus noir. Il y a des épisodes des années 50 ou 60 où c'est complètement ridicule, où lutte contre des extraterrestres. On ne voudrait plus lire ces épisodes aujourd'hui en dehors d'un regard historique. Donc j'ose espérer que l'exposition donne toutes ces facettes de Batman pour montrer à la fois le côté pluriel du personnage et toute sa complexité.
Alors, tout à l'heure, à 10h30, Frank Miller, qui était avec nous, fera sa masterclass à Angoulême. Et vous-même, justement, vous allez enchaîner, Xavier Fournier, puisqu'après, vous donnez une masterclass, mais cette fois-ci, en hommage à Stan Lee.
Qui est décédé au mois d'octobre, en compagnie de gens comme Olivier Coipel, qui est un dessinateur français, mais qui travaille beaucoup pour Marvel et qui a travaillé un peu pour DC aussi. Il est évident que c'est intéressant de pouvoir avoir un peu de recul sur ce personnage. Stan Lee, c'était un auteur, mais c'était lui aussi un personnage.
Alors, auteur de plusieurs super-héros, surtout.
Un co-créateur de pratiquement tout le cheptel historique classique des années 60 de Marvel. Et puis, il a su se créer. C'est-à-dire qu'il est devenu, c'est pas un hasard si on l'a revu ces dernières années en caméo dans les films. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de Mister Magoo qui symbolisait l'univers Marvel. Donc, il y a différentes facettes. C'est-à-dire, c'est un type qui a créé de manière orale pratiquement tous ces personnages-là et qui s'est beaucoup intéressé à la résonance de la société. Il a beaucoup résonné avec la jeunesse qui était un peu en révolte dans les années 60. Enfin, il y a beaucoup de choses d'actualité dans l'écriture de Stan Lee.
Olivier Delcroix, bonjour et bienvenue. À partir d'aujourd'hui, vous êtes un des partenaires du Réveil Culturel. C'est une joie de vous recevoir. Vous travaillez pour le Figaroscope, qui consacre sa une cette semaine aux super-héros, pas seulement à Angoulême, mais à Paris.
Mais oui, parce qu'en fait, effectivement, Toufik, la grande idée des super-héros, c'est quand même qu'ils se déploient beaucoup plus dans des capitales, dans des métropoles. Il y a une verticalité dans ces grands centres urbains qui est sciée plus aux super-héros que les plaines angoumoisines.
Et ouais, du coup, il vaut mieux être à New York et à Tokyo plutôt que...
Et à Paris, ma foi.
Et à Paris. Alors c'est qui le super-héros de Paris qui a porté Paris avec lui?
Effectivement, j'entendais Frank Miller et Xavier Fournier en parler, mais c'est vrai que finalement, quand je pense aux super-héros parisiens, me revient en mémoire quand même la bande dessinée de Serge Lehmann et Stéphane Créti, Masqué, où il mettait en scène, dans un Paris futuriste, un personnage doté de super-pouvoirs, une sorte de justicier, un peu, effectivement, version Comte de Monte Cristo, qui s'appelait l'Optimum. Voilà. Et Serge Lehmann, que j'ai évidemment embarqué dans mon histoire, est interviewé dans le dossier que le Figaroscope consacre aux super-héros à Paris.
Et pour vous, Olivier Delcroix, Batman, c'est une histoire du passé, c'est du patrimonial, ou c'est un super-héros qui a réussi à passer du 20e au 21e siècle?
Je pense que le personnage de Batman, il résonne en nous parce que il est né d'une fracture et d'un traumatisme enfantin. Un traumatisme qui remonte à son enfance. Donc cette névrose-là, elle est un petit peu en nous. Voir ses parents mourir à la sortie d'un film comme Zorro dans un coin de rue, tué par quelqu'un, évidemment ça entre en résonance avec notre vie, avec notre psyché. Et le personnage de Batman, c'est ça aussi. C'est
super héros, mais très humain,
mais
très
extrêmement vulnérable. Fragile, avec cette espèce de traumatisme infantile qu'il colporte et qui est toujours en lui et qui forcément nous pousse à l'identification. C'est pour ça qu'on adore se déguiser en Batman. C'est pour ça qu'en fait, moi, c'est l'un de mes personnages préférés que j'ai découvert aussi très tôt. Moi, j'étais plutôt un adepte de Neil Adams dans les années 70 et de Jim Aparo. Moi aussi, je pourrais effectivement, quand Frank Miller racontait l'histoire de son premier Batman, rapporté par son père, eh ben moi, c'est un peu la même chose. Mon père aussi m'a offert, m'a mis dans les mains dans les années 70 un Batman, et je me souviens très bien de quel Batman c'était.
Bah, racontez-nous.
C'est simple, c'est celui où on s'aperçoit dès la couverture que Batman, dessiné par Jim Aparo, se met en travers de la route des policiers qui veulent arrêter le Joker et qui dit: attention, je défends cet homme est innocent, c'est mon ami. Et alors là, on se dit: mais attendez, c'est pas possible. comment ça se fait que le Joker soit défendu par Batman? Et toute l'histoire en fait tourne autour de la façon dont le Joker a encore une fois joué un sale tour à Batman, mais qui va s'en sortir.
Batman, 80 piges, honoré à Angoulême, puisque c'est le festival d'Angoulême en ce moment, avec une grande exposition, Batman, un genre américain démasqué. Et je suis avec Xavier Fournier et Olivier Delcroix. Comment on gère Batman? Comment les éditeurs, les ayants droit, gèrent Batman, Xavier Fournier?
Eh ben, il le gère de manière variable suivant les décennies, parce que on a un rapport avec la justice qui est pas le même. Tout à l'heure, Frank Miller parlait de Dirty Harry, et donc de Clint Eastwood en train de jouer ce personnage très compliqué de flic. Et on voit bien que ce film-là, on le regarde de manière différente suivant les décennies, parce que c'est un type qui est ultra violent et qui devient juge et bourreau, et puis qui vraiment, à l'époque de la sortie du film, il y a un regard critique, et puis finalement il y a des gens qui en viennent à admirer le personnage à la longue.
Mais c'est-à-dire que ce sont les éditeurs qui proposent des histoires, une orientation, peuvent choisir un dessinateur.
Il y a eu ça dans les années 60, la méthode de DC Comics, ouais, c'était de dire au niveau des éditeurs, on sait ce qui fait vendre, quelle couverture fait vendre un épisode, donc on commande d'abord la couverture et on informe le scénariste que sur la couverture il y aura ça, et c'est à lui de se débrouiller pour trouver une histoire. Le dessinateur, après avoir dessiné la couverture, il attend le scénario. Et
le scénario est revu, corrigé par...
Ouais, il y a des choses comme ça. Ouais. Et puis il y a aussi des fois des choses très intéressantes, accidentelles, qui sont nées d'une écriture collective. C'est-à-dire que Bob Kane et Bill Finger sont les créateurs de Batman, mais à partir du troisième épisode, ils ont d'ici à déléguer l'écriture à d'autres scénaristes. Et le scénariste du troisième épisode de Batman, qui s'appelle Gardner Fox, qui a un nom largement oublié, c'est le premier qui dit, mais on va lui trouver un gadget, on va l'équiper d'un truc qu'on appellera le Batarang. Ah, puis tiens, on va lui mettre une sorte d'hélicoptère, alors qu'ensuite est devenu le Batplane. Et c'est lui qui a l'idée des gadgets. Donc si ce type-là n'écrit pas le troisième épisode de Batman, le Batman que vous lisez, si on se base sur les deux premiers épisodes, il a une voiture banalisée rouge, il a son costume tout bête, mais pas de gadgets. Et ça change tout, quoi. C'est le troisième épisode de Batman est déterminant pour la suite.
Et pour le cinéma, comment ça s'est passé? Comment on a géré ce super-héros au cinéma, Batman?
Il y a un impact avant d'arriver au cinéma par la télé. C'est-à-dire
il y a eu un
feedback très très curieux. Le héros phare des comics adaptés à l'écran, c'était Superman dans les années 50, mais ça s'est fini plus ou moins bien. La série est partie un peu en autre boudin, et surtout l'acteur s'est suicidé, l'acteur qui incarnait Superman. Donc on a voulu dans les années 60 refaire du super-héros à l'écran, mais on voulait quelque chose de beaucoup plus comique, détendu un petit peu, et on est parti là-dedans. Et ça a impacté forcément la perception de Batman. Donc on en arrive à un moment à un scénariste qui s'appelle Tim Burton, et qui trouve un petit peu le juste milieu entre les côtés lugubres de Batman, le côté nocturne, vraiment torturé, et puis le côté carnaval. Et ça donne les deux premiers Batman, donc qui sont réalisés par Burton, qui ont un côté
énorme succès, faut-il le rappeler, bien sûr,
et qui joue sur tous les tableaux là-dessus. Et à plus forte raison quand on les regarde là aussi avec un décalage. D'abord en particulier le deuxième avec Catwoman, je l'ai revu encore il y a pas longtemps, a très peu vieilli, quoi. Il a une pertinence sur le rôle de la femme. Enfin, il y a plein de choses qui restent tout à fait actuelles.
Après, fait faire dans Catwoman.
Après, le fait est que une fois que le Batman est devenu une référence au cinéma, les studios sont passés derrière en disant c'est bon, c'est un nom qui vend, il suffit de faire des films et ça tournera. Et ils se sont très vite rendu compte que c'était pas le cas, il a fallu réinventer la poudre.
Alors, Olivier Delcroix,
Batman a toujours été, par rapport à Superman qui est né un an avant, la face cachée de l'Américain. C'est the dark side of America. C'est la face sombre de l'Amérique. Et c'est ce que d'ailleurs Frank Miller a très bien dit tout à l'heure. Alors que Superman, sur lequel Miller est en train de travailler, est plutôt la face éclairée. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et effectivement, cette pièce de monnaie, elle est véritablement la clé des États-Unis telle qu'on la voit. Donc en fait, quand par exemple l'Amérique va mal, tout d'un coup Batman revient. Batman est plus là en 89, quand Tim Burton réalise le Batman, effectivement, avec ce mélange des deux. Hein, on est à la fois dans le camp de la série télé Batman des années 60, avec Adam West, dans un rôle plutôt comique. Et en même temps, on est dans une noirceur que traverse l'Amérique au même moment. Et par contre, effectivement, quand tout d'un coup l'Amérique va un peu mieux et commence à reprendre espoir quelque part, c'est le personnage de Superman qui remonte et tout d'un coup on fait l'homme d'acier. Et c'est amusant de s'apercevoir qu'en fait, dans cette mythologie pop américaine, ces deux personnages se renvoient la balle et existent et coexistent.
Merci Olivier Delcroix, merci Xavier Fournier. Et si vous voulez réécouter cette émission consacrée à Batman avec l'interview exclusive de Frank Miller, Le Réveil Culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Éric Boisset. Bonne journée, à lundi.
Keep busting. Creature, man.